Je disais, nous vivons dans une très belle région, non seulement par la géographie, mais aussi par l'aspect culturel. Il y a plein de petits villages dans les Alpes-Maritimes qui sont très beaux. Et il y a un petit village qui se trouve en dehors de la France, mais pas très loin. Un petit village qui se trouve près de la ville italienne de Cuneo, Cogné en français. C'est le petit village de Vernante. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler de ce... Je vois qu'il y en a quelques-uns. J'y suis jamais allé personnellement, mais je sais que c'est un village qui mérite le détour. Parce que dans ce village, il y a des bandes dessinées sur les maisons. Des bandes dessinées qui raconte une histoire. Et en fait, je pensais que c'était peut-être la ville natale, le village natal de Carlo Collodi, mais en fait, c'est le village natal d'Attilio Mussino. Et ces gens-là, vous ne connaissez pas leur nom, mais Attilio Mussino, c'était lui le dessinateur, l'illustrateur de l'auteur Carlo Collodi. Lui était de Florence. Vous le connaissez mieux, vous savez que son œuvre principale, ce sont les aventures de Pinocchio. Ah ! Et donc, dans le village de Vernante, il y a, j'ai vu sur Internet, à défaut d'y avoir été déjà moi-même, plein de représentations des histoires de notre ami Jiminy Cricket, le grillon qui parle, de la fée bleue. Tout ça, ce sont les aventures de Pinocchio qui sont illustrées là-bas. On les connaît beaucoup mieux par l'intermédiaire d'un Américain de descendance française, quelqu'un qui venait de Normandie, dont les ancêtres venaient de Normandie, de la région de Disigny, en Normandie. Et cet homme, c'était Walt Disney. Son nom Disney, ça vient de Disigny. Les Américains ne pouvaient pas dire Disney, so ils ont dit Disney. Et lui a repris l'histoire, avec son talent bien connu, en la rendant très, très, très sympathique, très drôle. Mais ce qui est important, c'est qu'en fait, cette histoire, à l'origine écrite par Carlo Collodi, c'est une histoire qu'il avait écrite pour enseigner une morale. Une morale qui est tirée de notre texte aujourd'hui. On va voir aujourd'hui. On va étudier, on revient à nos études des petits prophètes, on va voir le prophète Jonas. Jonas et la baleine. Donc, c'est une histoire que tout le monde connaît, soit parce qu'ils l'ont vue à l'école du dimanche, soit parce qu'ils sont allés à Vernante, ou plus probablement parce qu'ils connaissent Walt Disney et les aventures de Pinocchio, dont le nez s'allongeait lorsqu'il mentait. Et dans l'histoire de Walt Disney, c'est le papa Geppetto, enfin le créateur, le sculpteur sur bois Geppetto, qui se retrouve à l'intérieur du ventre d'un grand poisson, d'une baleine. Mais on va lire l'histoire de Jonas. On va commencer aujourd'hui juste pour... vous donner un contexte historique. On s'éloigne de Pinocchio, on revient vraiment à la parole de Dieu, mais c'est intéressant de voir que ces vérités qui sont enseignées dans la Bible, elles ont inspiré des auteurs et qui ont fait que les histoires sont connues. Bien souvent, on ne sait pas d'où ça vient, mais c'est là qu'on voit l'importance de connaître la Bible pour comprendre la culture occidentale. Une fois, c'est un de mes sujets d'énervement favori, mais je suis toujours. J'en reviens pas que les auteurs de la Constitution européenne aient voulu refuser le fait que nous vivons en Europe sur la base d'une culture judéo-chrétienne. Il suffit aujourd'hui de regarder autour de nous. Et tous les clochers, toutes les chapelles, toutes les églises, toutes les cathédrales, ça montre qu'on a été inspiré, la Bible a eu une influence. Alors aujourd'hui, au nom du politiquement correct, mais on refuse cela, mais c'est la vérité. Et tout ce qui est hôpitaux, tout ce qui est établissement d'enseignement, ça vient de l'influence de la parole de Dieu. Ça, c'est bon à savoir et à garder en tête. Ce prophète Jonas, il a vécu à l'époque du roi Jéroboam II, c'est-à-dire à peu près en l'an 760, grosso modo, 750 avant Christ, deuxième livre des rois. Je vous invite à prendre une Bible. Si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez lever la main et on vous en portera une. Le livre des rois, chapitre 14, verset 25. Deuxième livre des rois, pardon. Et il est question du règne de Jéroboam II. Et au verset 23. La 15e année du règne d'Amatsia, le fils de Joas sur Juda, Jéroboam, fils de Joas, le roi d'Israël, devint roi à Samarie. Il régna 41 ans. Je vous rappelle qu'après le grand royaume de David et de Salomon, le royaume avait été divisé en deux. Le royaume du sud, qui s'appelait Juda, parce que c'était la tribu principale, avec pour capitale Jérusalem, et le royaume du nord, qu'on appelait le royaume d'Israël, dont la capitale était Samarie. Le roi Jéroboam était roi à Samarie, donc royaume du nord. Il fit, verset 24, ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, le fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Ça, c'est Jéroboam le premier, qui avait contribué à la séparation des deux royaumes. Verset 25, « Il rétablit les frontières d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer Morte, conformément à la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amittai de Gath-Hépher. » Donc, c'est la première mention du prophète Jonas qui venait de cette région de Gath-Hépher, qui est en fait la Galilée. C'est intéressant, vous vous souvenez peut-être que lorsque les chefs religieux de l'époque de Jésus-Christ ont entendu parler de Jésus, ou même ses premiers disciples disaient, mais il ne peut pas y avoir un prophète qui vient de cette région de Galilée, parce qu'il n'y a jamais eu de prophète qui soit venu de là-bas. En fait, ils oubliaient le prophète Jonas, qui avait donc précisé l'étendue du territoire qui allait s'étendre sur une grande distance. Ça, c'était une prophétie de Jonas. Revenons à Jonas. En fait, ce qui est intéressant, c'est que contrairement aux prophètes que nous avons étudiés jusqu'à présent, Osée, Joël, Amos, Abdias, il n'y a pas vraiment de grandes prophéties annoncées par le prophète Jonas, si ce n'est le fait que Dieu veut passer un message à Ninive, la capitale de l'Empire assyrien, et il veut lui dire qu'elle va bientôt subir la punition de Dieu. Donc ça, c'est la prophétie qu'il est chargé de transmettre. Mais par ailleurs, c'est un passage qui est bien attesté, notamment par Jésus lui-même, dans Matthieu 12, 40. Vous pouvez vous y tourner, Matthieu 12, 40, premier des évangélistes. Les chefs religieux demandaient un miracle à Jésus, verset 38 du chapitre 12 de Matthieu. Alors quelques-uns des spécialistes de la loi et des pharisiens prirent la parole et dirent: « Maître, nous voudrions voir un signe miraculeux de ta part. » Il leur répondit: « Une génération mauvaise et adultère réclame un signe miraculeux. Il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. » Et là, Jésus ajoute: « En effet, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans la terre. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront avec cette génération et la condamneront parce qu'ils ont changé d'attitude à la prédication de Jonas. Or, il y a ici plus que Jonas. » On va s'arrêter là, mais cette référence faite par Jésus-Christ sur le prophète Jonas nous atteste qu'il a bien existé et que son histoire s'est réellement passée. Jésus, qui ne pouvait pas mentir, n'a pas dit « Oui, l'histoire de Jonas, c'est un conte de fées. » D'ailleurs, Disney le reprendra et... C'est pas tout à fait vrai. Non, il prenait l'histoire de Jonas comme un exemple de réalité historique et même comme un type, une prédiction de ce qu'il allait lui-même vivre. Alors, on a parlé de la ville de Ninive. C'était la capitale de l'Empire assyrien. Aujourd'hui, les ruines de Ninive se trouvent dans la région de Mossoul en Irak. Récemment, les troupes de la coalition ont gagné beaucoup de terrain et beaucoup pensent que Mossoul, qui est toujours sous la domination de Daesh, devrait tomber d'ici la fin de l'année 2016. La cruauté, on en a parlé, des Assyriens était bien connue à l'époque. Ce sont eux qui ont inventé le supplice de la croix. Ce sont eux qui dépeçaient leurs adversaires pour les faire mourir, c'est-à-dire qu'ils leur enlevaient la peau. C'est eux qui faisaient rentrer qui empalaient leurs ennemis. Ils étaient d'une cruauté terrible. Et est-ce qu'il y a des pouvoirs démoniaques qui sont attachés à cette région? C'est bien possible quand on voit la cruauté dont font preuve ceux qui se rattachent à Daesh. Je cherchais un peu des informations récentes sur ce qui se passait à Mossoul avec Daesh et la coalition qui les oppose. Et en fait, j'ai trouvé une photo de personnes à qui on a cousu les lèvres avec du fil de fer. Apparemment, certains des gens de Daesh avaient entendu des Irakiens de la ville de Mossoul parler de l'avancée des troupes ennemies qui allaient faire tomber la ville et tomber Daesh. Et pour servir d'exemple, ils ont pris 4 personnes qui avaient été suspectées donner des nouvelles en se réjouissant que c'était bientôt la fin pour Daesh. Et ils leur avaient cousu la bouche, et on voit une photo d'un homme avec du fil de fer qui retient ses lèvres. Et apparemment, ils en ont pris 4 comme ça. Ils les ont mis à l'arrière d'un coffre de voiture ouvert et ils les ont promenés dans la ville pour indiquer aux gens que s'ils ne la fermaient pas, voilà le sort qui leur était réservé. Et on ne peut pas s'empêcher de penser que cette cruauté des Assyriens, elle se transmet. Alors, il y a de la cruauté partout, je ne veux pas en faire un point essentiel, mais j'étais vraiment frappé par cette cruauté. C'était à l'époque la plus grande ville du monde. On verra plus loin qu'il fallait, plusieurs jours, pour 3 jours en marchant pour en faire le tour. Quand j'habitais Paris à une époque, on aimait bien le dimanche, j'étais pas encore chrétien, le dimanche matin on partait faire les sentiers de grande randonnée qui forment 2 cercles autour de Paris. Et c'est vrai que si on avait voulu faire une des boucles entières, ça aurait pris plusieurs jours. C'était une grande ville où il y avait beaucoup de cruauté, beaucoup de péché. Et on va lire ce que Jonas a rapporté. Souvent, il est fait référence de lui à la troisième personne, et certains disent que ça, c'est la preuve que ce n'est pas lui qui l'a écrit, mais c'est un procédé littéraire souvent utilisé dans la Bible, où lorsqu'on parle de soi, on parle de soi à la troisième personne. Un peu comme quand vous avez des lettres de nouvelles, il y a un couple, et on parle de Pierre comme si c'était quelqu'un d'autre qui parlait de Pierre, mais c'est en fait moi qui écris sur Pierre, mais c'est pour séparer de ce qui se passe chez Nancy. Peu importe, lisons ensemble. Verset 1 du chapitre 1 de Jonas. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. Vous vous souvenez, on a vu la même description dans 2 Rois 14-25, on connaît le nom de son père, Amittai, c'est tout ce qu'on sait de lui, il avait un fils qui s'appelait Jonas. Verset 2, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » La parole de l'Éternel, Dieu parle à Jonas et lui donne une mission. Lève-toi. On peut supposer qu'il était assis ou peut-être allongé. Peut-être qu'il dormait un peu. Et le Seigneur lui dit, lève-toi et voici ta mission. Va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle. C'est-à-dire prêche avec force. Donne-leur une indication de ma part, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. C'était une des villes les plus peuplées, je pense peut-être 150 000 habitants, je crois que peut-être il y a des précisions plus tard. Mais il vivait sans égard pour le Dieu de la Bible, il vivait sans doute avec des tas de faux dieux. Mais dans leur perversité, dans leur méchanceté, dans leur péché, Ils ne pensaient pas que le véritable Dieu, le vrai Dieu, les voyait. Et c'est toujours bon de vivre notre vie en réalisant que même si nous nous fermons les yeux, que nous ne voulons pas voir Dieu, lui nous voit, rien ne lui échappe. J'aimais bien une étude de psychologie qui parlait des mini ou des micro-émotions que nous ressentons. On a des émotions qui sont sur la durée. On peut être dans la tristesse, on peut être dans le deuil, on peut être dans le chagrin, on peut être dans la joie. Et puis ça a une certaine durée. Mais il y a aussi ce que ces psychologues appellent des mini ou des micro-émotions. C'est au cours d'une journée, on a des instants où on va avoir un peu de joie, des instants où on va être un peu triste, des instants où on va avoir un petit peu de peur, des instants... Et ce qui me frappe, c'est que pour nous, on les remarque même pas, ces moments. On voit une lettre dans le courrier, on se dit « aïe, ça doit être les impôts ». Puis non, en fait, c'est une publicité pour les parfums Rocher. Mais on a eu un instant de petite peur. Et la Bible nous assure que Dieu connaît nos sentiments. Et même ses micro-émotions, il les connaît. Rien ne lui échappe. Et nous pouvons vraiment nous en remettre à lui dans nos vies, pour tout ce qui se passe. Mais la méchanceté de la ville, le péché est parvenu à Dieu. Il pensait peut-être que il pouvait continuer sans égard à quelqu'un de plus grand qu'eux, peut-être leur roi ou l'empereur de la Syrie était la personne qu'il craignait le plus. En fait, Dieu est là qui voit tout. Jonas reçoit une mission de Dieu, « Lève-toi et va à Ninive. » Et verset 3 nous montre sa réaction. « Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et il trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. » On voit un prophète qui désobéit à Dieu. Les prophètes sont des hommes qui ont reçu une mission de Dieu à l'époque. On a parlé des dons de prophétie. Souvent, c'est simplement réaffirmer la parole de Dieu. Mais voilà quelqu'un qui vivait à l'époque du prophète Ésaïe. Il y a eu des périodes de chevauchement de leur ministère. Ésaïe et d'autres prophètes, Amos et même d'autres, je crois. Et lui, Dieu lui donne une mission et il désobéit clairement. La seule chose à laquelle il obéit, c'est l'ordre de se lever. Il se lève. Ah, il obéit. Sauf que tout de suite après, il part dans la direction opposée, aussi loin qu'il le peut. Alors, certains se demandent pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça. C'est peut-être la peur qui fait, il a entendu parler des Assyriens. C'est un peu comme si on vous demandait d'aller prêcher l'évangile à Raqqa ou à Mossoul en ce moment. Et vous dites, je prends le train, je vais à New York et je vais aller à Seattle, aussi loin que possible. En même temps, cette peur, elle peut être légitime. Quelqu'un disait, c'est un peu comme si pendant la période de la guerre, Deuxième Guerre mondiale, Dieu avait envoyé un juif de New York venir parler aux Allemands, aux nazis, de son amour. Et le gars aurait sans doute pris le train pour aller à San Francisco et de là pris le bateau pour aller en Chine. Alors est-ce que c'est la peur ? On verra par la suite qu'on a l'impression que ce n'est pas le sentiment principal qui anime notre prophète désobéissant. On y reviendra, mais ça semble plus être le fait qu'il ne veut pas voir ce peuple barbare, ce peuple qui va emmener son royaume, le royaume du Nord, qui va l'emmener en captivité en Assyrie, en le faisant souffrir. Il ne veut surtout pas voir ses peuples pardonner. Et le message de ce livre du prophète Jonas, ça nous parle du prophète lui-même. On va parler de sa désobéissance, de son repentir forcé par les événements, de sa mission accomplie, mais on sent que où on apprend plus de choses peut-être sur Dieu lui-même que sur le prophète. Dieu voit tout et il aime tous les hommes malgré tout ce qu'ils peuvent faire. Dieu aime ces djihadistes de Daesh. Waouh ! Est-ce qu'ils l'ont jamais entendu ? Non. Ils le rejettent, mais ça n'empêche que Dieu aime tous les hommes, toutes les femmes. Et il veut le faire savoir. Il est prêt à pardonner tous les hommes, toutes les femmes. Nous qui sommes nés dans le péché, qui avons cette vieille nature de pécheur en nous, nous avons nous aussi du ressentiment. Et souvent, on souhaite du mal à nos ennemis. C'est un sentiment, encore une fois, humain, dans le sens où c'est la vieille nature humaine qui n'a pas été rachetée par Dieu qui réagit comme ça. Il s'en va loin de la présence de l'Éternel. On verra que c'était plus loin qu'il pouvait. Il pouvait citer les psaumes, mais là, de toute évidence, il a une mémoire sélective, parce qu'on sait qu'un des grands psaumes, le psaume 139, qui nous parle justement de la connaissance illimitée de Dieu sur chacune de nos vies. On va le lire, psaume 139. Psaume, c'est à peu près au milieu de votre Bible. Je n'ai pas le numéro de page exact pour vous. David déclare, examine, Éternel, tu m'examines, pardon, et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu discernes de loin ma pensée, tu sais quand je marche et quand je me couche, et toutes mes voies te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi, elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Verset 7. Où pourrais-je aller loin de ton esprit ? Où pourrais-je fuir loin de ta présence ? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la terre, là aussi ta main me conduira, ta main droite m'empoignera. Si je me dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Là, David dit très clairement qu'on ne peut pas fuir loin de la présence de Dieu. On peut s'imaginer qu'on s'éloigne de lui parce que peut-être on s'éloigne de l'endroit où on l'a rencontré, mais ça veut dire qu'on l'a rencontré et on l'a mal connu parce qu'il nous dit qu'il est partout. Et donc, il est décidé à désobéir par peur ou par peur physique pour lui-même ou par peur que Dieu ne montre trop de clémence et pardonne à cette méchante civilisation de la Syrie. Et là, on va voir qu'il va descendre de plus en plus bas. D'abord, il est dit, il descendit à Jaffa. C'est la ville côtière qui se trouve à côté de Tel Aviv. Lorsqu'on va en Israël, on arrive généralement en avion à Tel Aviv. Et si on passe une nuit là-bas, on a l'occasion d'aller voir la ville de Jaffa ou Joppa dans certaines versions. On peut voir la maison du cordonnier Simon. Et tout de suite, on se dit, waouh, tous ces endroits dont j'ai entendu parler dans la Bible, ils sont vraiment là. La Bible n'est pas un conte de Walt Disney, c'est une réalité historique. Il descend à Jaffa et là il trouve un bateau qui allait à Tarsis. Alors Tarsis, on n'est pas exactement sûr. On pense que c'est peut-être une ville qui se trouve au sud de l'Espagne, pas très loin de Gibraltar. Il y a une ville antique là-bas qui a un nom similaire et qui était peut-être connue à l'époque par les Phéniciens. Là, il faut bien se rendre compte que les marins dont il est question, le capitaine du bateau, c'est des gens qui sont à Jaffa, sur la région de Tyr et Sidon. C'était les marins de l'époque, les Phéniciens. C'est eux qui ont créé des comptoirs comme Marseille ou comme Nice, et puis Antibes, qui était à l'opposé de Nice. C'est ce que veut dire le mot Antipolis. Et il trouve un bateau. Et souvent, on a la tendance à justifier les décisions, les désobéissances que nous avons, que nous commettons, en nous fondant sur des circonstances. J'ai pensé aller à Tarsis, j'arrive là-bas, et voilà-t-il pas qu'il y a un bateau qui partait justement pour Tarsis. Il paya le prix du transport. Il avait juste la semaine d'avant reçu un chèque qu'on lui devait depuis des mois, mais il avait justement le montant exact pour aller à Tarsis. Tout ça pour nous mettre en garde. Pour me mettre en garde, vous mettre en garde, de décisions fondées sur les circonstances. Parce que si on insiste un peu, on peut forcer les circonstances à s'aligner dans le bon sens. De la même façon qu'il avait une mémoire sélective, il se rappelait de certains psaumes, on le verra plus tard, mais il avait oublié le psaume 139, versets 7 à 10, qui était pourtant un psaume très connu. Là, on peut avoir une vision sélective des circonstances et dire, en fait, j'ai fait ça parce que l'occasion s'est présentée. Satan peut permettre à des mauvaises occasions de se présenter et on ne doit jamais fonder nos grandes décisions, nos petites décisions sur nos circonstances. Nous devons chercher la volonté de Dieu dans sa parole, par la prière, par le conseil auprès d'autres chrétiens, mais pas sur le simple fait qu'il y avait un bus qui partait juste au moment où on est arrivé, qui partait pour aller à Monaco jouer au casino. C'est bien la preuve que je devais aller au casino. Juste quand j'arrive, il y avait le bus qui partait. Et j'avais... Le gars m'a dit, c'est bon, je vous ferai la monnaie. Je n'avais pas le billet, mais il m'a fait la monnaie. Il paye le prix du transport et il s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il a aussi réagi de façon impulsive. Dieu lui demande de faire quelque chose, il se lève et pof, il réagit, il décide de façon impulsive. Il part, pof, il y avait le bus qui descendait à Jaffa, un bateau, le prix du transport. Il monte dessus et il dit, c'est bon, je vais loin de Dieu. Je n'aurai pas de compte à lui rendre. Verset 4, l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une si grande tempête que le bateau menaçait de faire naufrage. La parole est très claire, c'est Dieu qui cause le vent, qui cause l'orage. On aime bien se rappeler l'épisode où Jésus calme les vagues sur le lac de Tibériade, le lac de Galilée, la mer de Galilée. Jésus peut calmer la tempête, mais Jésus, Dieu, peut susciter la tempête. Et lorsque nous traversons des périodes de turbulence, comme on dit en aéronautique, il est toujours bon de se demander si quelle est l'origine de ces turbulences. Est-ce que c'est le hasard? Est-ce que c'est Satan qui cause des problèmes? Ou est-ce que c'est Dieu qui veut avoir mon attention? Alors, généralement, si on prend le temps de réfléchir et dans la prière de rechercher la raison pour laquelle on se trouve dans une tempête, Dieu nous fait savoir et nous savons rapidement si c'est de notre fait, si c'est une tempête corrective ou non. Et là, c'est pas une petite tempête, c'est une si grande tempête que le bateau menace de faire naufrage. Les marins, qui étaient des Phéniciens, qui avaient l'habitude de la mer, ils ont vraiment eu peur. Et là, il est dit, ils implorèrent, verset 5, ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le bateau afin de l'alléger. Jonas était descendu au fond du bateau, s'était couché et dormait profondément. Les marins ont vraiment peur. Ils ont des dieux multiples dans leur culture, dans leur civilisation. Ils ne connaissent pas encore le vrai Dieu, l'unique et seul vrai Dieu. Et ils devaient venir de régions différentes, de villages différents. Ils ont chacun leur Dieu. Ils implorent leur Dieu de calmer la tempête. Et on voit qu'ils ont vraiment peur parce qu'ils sont responsables d'une cargaison. Ils transportent des biens, des matériaux pour lesquels ils sont payés. Et lorsqu'ils arrivent à destination, s'ils n'ont pas les matériaux, ils vont avoir à payer, ils vont avoir des problèmes, ils vont sans doute perdre le business. Là, ils sont prêts à jeter les objets, leur cargaison, parce que tellement ils ont peur. Ça rappelle un peu les épisodes de Paul qui a subi une tempête qui est décrite dans le livre des Actes avant d'arriver à Malte. Là aussi, on jette tout parce qu'on arrive à l'extrémité. Je suis toujours un peu gêné lorsque dans les avions, vous lisez les instructions, on vous dit que si jamais il y a un problème, vous laissez votre sac avec votre téléphone portable, votre portefeuille, vos passeports, vous courez tout de suite. Je dis, je prendrai quand même le temps de garder mon sac. Mais là, ils en sont vraiment arrivés au point où ils disent, sauf qui peut, ils jettent tout, et la tempête fait balancer le bateau, c'est le cas de le dire. Hein, c'est... Et Jonas, lui, qui a continué à descendre, il a commencé d'abord à descendre à Jaffa, après dans le bateau, après il a payé, il s'est embarqué. Maintenant, il descend au fond du bateau et il s'est couché. Et il dort profondément. Pourquoi est-ce qu'il dort? On en est réduit à des suppositions, mais peut-être qu'il était fatigué parce qu'il avait beaucoup couru pour s'éloigner de Dieu. Ou peut-être qu'il se sentait coupable, qu'il était mal à l'aise, que sa conscience le gênait, et que ce sommeil, c'était le sommeil de l'oubli. Il y a des fois, lorsqu'on a des tracas, des soucis, on aspire qu'à une chose, c'est pouvoir se coucher et dormir. On a peut-être du travail à rendre le lendemain, ou des... On est tellement stressé qu'on aspire au sommeil. Quelqu'un a dit très justement qu'en fait, la tempête qui avait lieu dans son cœur, de désobéir à Dieu, elle était plus forte que la tempête qui se passait dehors. Et que la tempête qui se passait dehors, elle le laissait tranquille en quelque sorte. Et peu importe, il dort profondément. Jésus dormait profondément lorsque les disciples ont été touchés dans la tempête. Mais ce n'était pas la même nature de sommeil, c'était un sommeil du juste. Le sommeil de quelqu'un qui a confiance et qui n'est pas affolé par la situation. Jonas, lui, ça semble être plutôt un sommeil d'oubli, de pas penser à ce qu'il est en train de faire, à lui qui est le prophète, un homme de Dieu, entre guillemets, comme on disait. Il s'éloigne, il refuse de faire la volonté de Dieu. Et verset 6, c'est le capitaine qui s'approche de lui, il lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi! » Il doit dire, « Oh non, encore une fois, ce mot, lève-toi! » « Fais appel à ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne mourrons pas. » Souvent, les non-chrétiens nous reprennent dans nos attitudes. Je me souviens que quand j'étais jeune chrétien, que je parlais à ma famille de l'Évangile, de Dieu, du salut en Dieu, souvent avec un peu de véhémence et un peu sans beaucoup de tact. Je critiquais la façon dont ma famille vivait. Ma famille voyait aussi comment je vivais. Et si je répondais courtement à Nancy, ils étaient les premiers à dire « Ah, ben tu te dis chrétien, ben finalement, hein ?» Et c'est toujours très, très gênant de se faire reprendre par des non-chrétiens qui savent ou qui ont une vision de comment je devrais vivre en tant que chrétien et que je ne le fais pas. C'est salutaire parce que ça nous remet en question, ça nous reprend. Pourquoi dors-tu? Tu vois, tu n'as pas senti la tempête? Lève-toi, fais appel à ton Dieu. Tout le monde priait leur Dieu. Le capitaine dit, mais où il est passé ce gars-là, qui est le dernier qui a payé là en liquide là. Et il le trouve en train de roupiller dans la cale. Et il lui dit, lève-toi et prie aussi, toi. Peut-être que ton Dieu voudra-t-il penser à nous et nous ne mourrons pas. C'est intéressant parce que là, on sent déjà que ce capitaine païen pense que le Dieu de Jonas, on sait par la suite, par le passage en lisant plus loin, que Jonas avait expliqué qu'il fuyait loin de son Dieu. Et on peut penser que ces païens pensaient que le dieu de Jonas était peut-être un dieu puissant et qu'il lui suffisait de penser à eux pour qu'ils ne meurent pas. Verset 7, puis ils se dirent l'un à l'autre, venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. C'était souvent l'idée que s'il y avait quelque chose qui frappait le camp, on voit ça dans l'Ancien Testament avec Achan, qui avait volé des biens qu'il ne devait pas prendre. On tire au sort pour savoir qui est responsable d'un problème. Je pensais que ça serait drôle si on faisait ça avec le gouvernement. Qui est responsable de la situation économique? Est-ce qu'il y a du péché dans le camp? Mais blague à part, venez et tirons au sort, et pof, le sort tombe sur Jonas. C'était quelque chose d'assez fréquent, c'était pas une invocation magique, mais c'était de penser qu'il y avait quelqu'un qui était responsable d'un malheur et de tirer au sort pour voir qui serait désigné par le sort. Le sort, c'est impersonnel, c'est comme une destinée, le fatum, c'est le mot latin pour dire quelque chose qui se passe parce que c'est la destinée, c'était prévu, c'est une acceptation d'une volonté divine sans vouloir reconnaître la présence de Dieu. Alors, verset 8, ils lui dirent, « Dis-nous, qui attire ce malheur ? Quelle est ton occupation et d'où viens-tu ? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu ? » Là, ils ont la conviction que c'est à cause de lui et maintenant, ils le cuisinent. D'où tu viens ? Qu'est-ce que tu fais ? Qui tu es ? D'où tu viens? De quel peuple es-tu? Et il leur répond, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. Il leur avait dit plutôt qu'il... Verset 10, ces hommes furent saisis d'une grande crainte et lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Il sut en effet qu'ils fuyaient loin de la présence de l'Éternel parce qu'il le leur déclara. Cette version laisse à penser que c'est juste sur ces entrefaites. D'autres versions pensent que ça a déjà été partagé. Mais là, c'est vrai qu'il pose toutes ces questions. Et du coup, il leur dit, je suis hébreu, je crains l'Éternel. Et c'est pour ça que je le crains tellement que je vais à 10 000 kilomètres de l'endroit où il me dit d'aller. Alors certains pensent que peut-être c'est le début d'un repentir, le début d'une repentance. Et il leur dit que le Dieu, l'Éternel dont il est le prophète qu'il sert, c'est le Dieu du ciel, c'est le Dieu tout-puissant qui a fait le ciel et la mer, et la mer et la terre. Et les hommes sont affolés. Ils réalisent qu'en fait, cet homme qui devrait obéir à Dieu est en train de lui désobéir de la façon la plus manifeste possible. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi as-tu fait cela? Verset 11, ils lui dirent, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? En effet, la mer était de plus en plus déchaînée. Dieu met la pression et il a cette réponse étonnante. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Là aussi, on peut se poser la question, qu'est-ce qui le motive? On aurait pensé qu'il aurait voulu sauver sa vie et qu'il aurait dit « continuons à ramer, continuons à jeter des affaires superflues pour retrouver de la flottaison ». Mais non, il leur dit « jetez-moi dans l'eau ». Est-ce que c'est par compassion envers ces hommes? Il se sait coupable, peut-être qu'il a, il s'est vraiment repenti et qu'il est prêt à faire confiance à Dieu et à se jeter en quelque sorte sur Dieu. Que ferons-nous pour que la mer se calme ? Prenez-moi, jetez-moi dans la mer se calmera envers vous. Je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes, je vous rappelle, ce n'étaient pas des Assyriens qui auraient sans doute trouvé une méthode cruelle de jeter à l'eau, vu leur référence et leur passé, leur habitude de cruauté. Non, là, il est dit verset 13, « Ces hommes ramèrent pour gagner la terre ferme, mais ils ne purent y arriver parce que la mer était toujours plus déchaînée contre eux. » Il leur a dit, je sais, c'est moi qui suis coupable, tout va se calmer si vous me jetez à l'eau. Et les gars continuent, ne le prennent pas au mot. Au contraire, ils continuent de ramer, ils ont dans leur cœur de ne pas vouloir faire du mal à Jonas. C'est encourageant de voir que des païens ont de la compassion. Et c'est une réalité, l'homme est fait à l'image de Dieu, qu'il ait reconnu l'existence présente de Dieu, de son Fils Jésus-Christ ou pas, les belles choses que nous voyons chez les hommes, comme cette compassion, ce désir d'épargner cet homme qui dit je suis coupable, jetez-moi, vous serez tranquille, c'est quelque chose qui montre que l'empreinte de Dieu est sur chaque homme. Et même les gens les plus cruels, il peut y avoir cette empreinte qui se manifeste à des moments donnés. Mais la tempête continue. Dieu ne permet pas à la tempête de se calmer. Et là, verset 14, ils s'adressèrent à l'Éternel et dirent, « Éternel, ne nous fais pas mourir à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent. En effet, toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » On voit la foi qui s'exprime, se manifeste, se fortifie chez ces païens. Ils se disent, bon, mais si la seule solution c'est de faire mourir cet homme, ne nous punis pas parce que c'est toi qui lui as fait dire de le jeter. Ne nous charge pas du sang innocent, que ce soit pas à quelqu'un d'innocent, mais toi, tu fais ce que tu veux, tu es souverain. Les païens reconnaissent la souveraineté de Dieu. Les gens disent qu'ils ne croient pas en Dieu, mais si vous leur proposez de prier pour leur situation, bien souvent ils vont dire « oui, s'il vous plaît ». Parce que Dieu a mis dans le cœur de tous les hommes le sentiment de l'éternité. L'homme a rejeté Dieu, l'homme rejette Dieu, mais faites appel à cette idée de Dieu dans chaque homme. Lorsque vous partagez, lorsque vous témoignez de votre foi, vous pouvez toujours dire ce que Dieu a fait dans votre vie. C'est quelque chose qui m'a touché lorsque j'étais encore païen. Je n'étais pas croyant, j'avais reçu une éducation chrétienne, mais que j'avais rejetée à l'adolescence. Et j'étais toujours surpris lorsque les gens me parlaient de ce que Dieu avait fait dans leur vie. Je pouvais dire que je croyais que Dieu n'existe pas, mais je ne pouvais pas dire que ce qu'ils avaient ressenti, ce qu'ils avaient vécu n'était pas vrai pour eux. Et au moins, je devais reconnaître que pour eux, Dieu avait agi, Dieu avait... Et en même temps, ça m'interpellait. C'est quelqu'un que je respecte, qui n'est pas complètement stupide, c'est quelqu'un qui a fait des études beaucoup plus avancées que moi, qui est un expert en informatique dans des sujets que je ne connais pas, et pourtant il me parle de Dieu, il me parle de Jésus-Christ, il me dit que la solution à toutes les situations, c'est Jésus-Christ. Ça permet de faire son travail dans nos cœurs, dans nos têtes. Et puis, verset 15, « Ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer » Et là, la mer se calme instantanément. Ces hommes, verset 16, furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Jonas, lui, on va voir qu'il a un autre épisode dans sa descente aux enfers. On verra ça la semaine prochaine. On voit l'intervention de Dieu, comment Dieu utilise des non-croyants pour reprendre quelqu'un qui aurait dû être un modèle de foi. On voit comment Dieu utilise des miracles pour guider le croyant. C'est lui qui a fait qu'il y ait un orage violent, qui a fait que le sort ou le tirage au sort tombe sur Jonas. Il a calmé l'orage lorsque Jonas a été jeté par-dessus bord. Et on va voir que ça ne s'arrête pas là, la semaine prochaine. Il y a toute une série d'événements qui sont en fait des miracles qui normalement ne devraient pas se passer. Et tout ça parce que Dieu aime les hommes, Dieu aime les Assyriens, Dieu aime Daesh. Il veut leur faire savoir. Nous, lorsqu'on a nos préjugés, nos jugements, on ne veut surtout pas entendre de la grâce de Dieu pour les autres. La grâce de Dieu pour moi, ah oui, alléluia, on va écrire des chants, on va chanter, on va célébrer la grâce de Dieu. Mais là, on voit comment il prend ce prophète et il va lui donner une mission. Le prophète va désobéir jusqu'à ce que Dieu ne perde pas espoir en lui et le force, en quelque sorte, à l'obéir. On verra ça la semaine prochaine. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que elle peut parler de façon très graphique et imagée à nos cœurs, Seigneur, et tu nous permets aussi de voir les leçons que tu veux nous faire apprendre. Tu vois combien nous pouvons juger Jonas en nous offusquant qu'un tel homme de Dieu n'aurait jamais dû ainsi désobéir à Dieu, mais peut-être que nous-mêmes, tu nous as parlé, tu nous as dit « Lève-toi et va servir dans l'Église. Lève-toi, va aider à l'accueil. Lève-toi, va aider avec les enfants. Lève-toi, va aider avec la musique. Lève-toi, va aider avec le ménage. » Et nous avons fait demi-tour et nous sommes partis aussi loin de ça que possible. Mais Seigneur, tu veux nous rappeler que la bénédiction, elle est pas dans la désobéissance. La bénédiction, elle est dans la confiance en toi. Seigneur, merci parce que tu nous rappelles que Jésus-Christ est venu non pas pour être servi, mais pour servir et servir de rançon pour un grand nombre de personnes, Seigneur. Tu offres le salut à tous les hommes. Tu veux, Seigneur, que nous participions à cette œuvre. Seigneur, aide-nous à ne pas être des hommes et des femmes qui te désobéissent, Seigneur. Apprends-nous à te faire confiance, à nous lancer dans les aventures de la foi que tu nous appelles à vivre. Sois glorifié, Seigneur. Prions toutes ces choses dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.